Ok. C'est ça
oui.
Perek Yudhé.
Yutret. Donc on va commencer, Bezrat Hashem, notre deuxième cours sur le Perek Yutret, chapitre 18.
Deuxième cours.
Chapitre 18. On va faire un petit résumé rapide. C'est un chapitre dans lequel on va s'arrêter sur le verset sur lequel le Tania était basé. Rappelez-vous, Moshe Rabbeinu, avant de partir de ce monde, dans une sorte de testament, il s'adresse au Bnei Israël. Il leur dit « Kikarov elecha adavar meod beficha uvilvafra la asoto ». Traduction, Moshe Rabbeinu s'adresse au peuple juif et il leur dit « Cette chose-là, ça veut dire aimer et craindre Dieu, est quelque chose qui est très accessible, qui est très proche pour toi. » Donc on a posé la question, une question très simple qu'on a posée. On a dit « Dire que pour tout juif, aimer et craindre Dieu, c'est possible, bon, ça va d'accord, j'accepte. Mais venir et dire que c'est très accessible, quand tu dis que c'est très accessible, ça veut dire que c'est quelque chose, c'est pas juste que tu peux le faire.
Quand, du bout des doigts,
voilà, c'est presque que tu as envie de dire, tu touches du bout des doigts, il suffit juste de bouger un peu ta main. Est-ce qu'on peut parler comme ça? Est-ce qu'on peut dire que aimer et craindre Dieu, c'est tellement facile, à tel point qu'il suffit juste de bouger sa main et qu'on l'accepte? Presque, j'ai envie de dire, quand on entend ce verset-là de Moshe Rabbeinu, on a l'impression que c'est, il te dit comme si que tu l'as déjà, mais tu ne sais pas. Bah oui, parce qu'il te dit, Kikarov elecha adavar meod, il te dit, la chose est très accessible, très proche de toi. Vous savez que dans la Torah, chaque lettre est précise. Donc quand on te dit, la chose est très proche de toi, c'est vraiment proche. On n'est pas là à faire dans les superlatifs et dans le très très proche et très extraordinairement proche. Quand la Torah te dit très proche, c'est que c'est très proche. Or, a priori, aimer et craindre Dieu, c'est pas si proche de ça. Est-ce qu'on arrive à aimer et craindre Dieu facilement comme ça? C'est très difficile. C'est un sentiment qui est très difficile.
Ouais, mais.
Alors attendez, j'arrive au bout du raisonnement. Donc on a expliqué comme ça. On a dit une chose très importante qu'on a dit la semaine dernière. On a dit qu'il faut savoir la chose suivante. Que même si une personne dit qu'il n'arrive pas à réfléchir à la grandeur de Dieu avec sa tête, et que dans son cœur, il n'arrive pas non plus à comprendre la grandeur de Dieu, c'est-à-dire que ni son cœur ni sa tête, il doit savoir que Moshe Rabbeinu lui dit, et que c'est la réalité qui est comme ça, la Torah lui dit, elle lui dit, sache que tu as en toi quelque chose que tu as hérité de tes patriarches. C'est sur ça sur lequel on s'est arrêté la semaine dernière. Tu as en toi un héritage. Qu'on a hérité de qui? De Avraham Avinu. Avraham Avinu, lui, sa croyance en Dieu, il l'a construite avec sa tête, avec son cœur, avec sa réflexion, avec ses sentiments. Il l'a construite de A à Z. Dieu a donné un cadeau extraordinaire à Avraham Avinu. Il lui a dit, je vais te donner le cadeau que tes enfants, naturellement, sans effort, ils auront de manière innée en eux le même amour et la même crainte que toi tu as après avoir travaillé.
Il a dit tes enfants.
Donc, oui.
Ça veut dire les deux.
Non, ça veut dire, attendez. On parle de Israël. Je vais expliquer tout de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, ce qu'on est en train de dire ici, quand Moshe Rabbeinu est en train de dire qu'Ikarov elecha davar meod, la chose est très accessible, ça veut dire qu'on doit savoir qu'en vérité, on a déjà ça en nous. C'est même pas que tu as besoin de l'accéder. Il suffit simplement de découvrir ce que tu as en toi. Et ça, je peux vous dire, je l'ai vu de mes yeux, plusieurs fois, surtout à Hanouka. Hanouka. Là, maintenant, là, juste ce soir. Je vous donne un exemple tout frais de ce soir. Ce soir, on a fait pour la première fois un allumage public sur l'angle Gobelin-Arago. D'accord? Avenue des Gobelins et boulevard Arago. Ouais. D'accord?
Si vous êtes presque mignonne.
Oui.
Vous m'appelez, je viendrai.
D'accord. Merci. Alors, ce soir, on a fait un allumage public. On a fait un allumage public. On était sur l'angle Avenue des Gobelins, boulevard Arago. Bon, alors, voilà, première fois qu'on fait là-bas. Alors, la vérité, on s'attendait à avoir 5-6 personnes, quoi. On s'est dit, on l'a mis dans les publicités, etc., mais on s'attendait pas à avoir du monde.
Ouais.
Il y a eu une cinquantaine de personnes qui débarquent. Bon, c'est très bien, magnifique, etc. Bien. Bah, au Hachem, très très beau. Bon, le micro, on a parlé, on a répété un Vartora et on a allumé, etc. Et là, écoutez cette histoire. Quand on était presque à la fin de l'allumage, il y a quelqu'un qui vient me voir. Quelqu'un qui n'était pas à l'allumage. Quelqu'un que je connais, d'accord, qui est de la famille de quelqu'un d'ici. Qui est la famille de quelqu'un d'ici, mariée avec une Goya. Bon, malheureusement. Et cette personne-là, il débarque comme ça à la fin de l'allumage, je dis, je vous ai pas vu. Il me dit oui. Il me dit, j'étais dans le bus, pour aller, j'étais dans le bus, d'accord, dans la Avenue des Gobelins. Il dit, j'ai vu de loin la menorah. Alors j'ai dit, je vais m'arrêter. Il s'est arrêté pour venir nous saluer. Pour vous dire à quel point, maintenant, le bonhomme, il est marié avec une Goya, il était avec ses enfants qui étaient aussi goyim. D'accord. Ça veut dire que tu peux dire, mais c'est vraiment, il est dans un environnement goy de chez goy. Et il voit la menorah. Il est descendu du bus pour nous dire bonjour. Il est même pas. Je dis, mais attendez, restez, venez, on va prendre des beignets, etc. Il dit non, je dois repartir, je dois reprendre le bus suivant. On m'attend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit ici dans le Tania, on t'explique qu'il y a un amour caché dans chaque juif envers Dieu. Et que c'est pas quelque chose qu'on doit créer. C'est quelque chose qui est déjà en nous, mais il suffit simplement de le dévoiler. Ça, on le voit clairement de nos yeux. Comment des gens qu'on croit qui sont complètement à l'ouest, dès qu'il y a une flamme comme Hanouka, tu les vois, ils ressortent et tu sais pas d'où ils sortent. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment une illustration du fait comment, en vérité, chacun de nous, bonsoir, chacun de nous a en lui, d'accord, chacun de nous a en lui le message, chacun de nous a en lui, en héritage, un amour caché vers Akadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Alors là, on va commencer à rentrer dans les détails. Donc, ceux qui ont le Tania ici traduit, page 237, c'est l'étude du 8 Shvat, en haut de la page.
Béaïnian. On me dit qu'on dit
oui.
C'est accessible. Il suffit de voir que par rapport à la première paracha, toute la création qu'on a autour de nous, on sait que c'est Hachem. Les miracles qui sont quotidiens qu'il a fait par rapport à la nature qu'on mange, etc., ça ne vient pas de la ça comme ça. Donc tu peux que croire à l'existence de Dieu quand tu vois ça.
Oui, mais si la Torah dit que c'est très accessible.
Par rapport à toutes ces merveilles-là, c'est accessible. Quand tu prends un fruit dans un arbre dans la rue, dans une forêt, tu le manges, ben voilà. T'as vu que la grandeur d'Hachem maintenant.
Oui, parce que tu connais Hachem.
Parce que je connais Hachem, parce que j'ai décidé de le voir. Mais est-ce qu'on peut dire que celui qui ne connaît pas, comme il vous dit, est-ce qu'on va dire celui qui ne connaît pas, c'est très accessible? Non, c'est pas très accessible. Pas du tout même.
Mais là, on dit
pas du tout accessible.
Là, on dit que c'est uniquement par rapport aux enfants d'Abraham, donc les enfants juifs. Donc,
Tous les juifs.
D'Abraham, non.
D'accord.
J'ai
dit le peuple juif. Le peuple juif. Est-ce que ça veut dire que n'importe quel juif au monde, tout de suite, c'est très accessible, c'est facile pour lui? C'est ce que Moshe Rabbeinu nous dit. On a posé la question, on a dit, mais comment c'est possible?
Parce qu'on a donné chance.
La démarche que vous avez dit ici maintenant, la majorité des juifs ne l'ont pas.
Ouais.
Ils disent pas, je mange un fruit, je réfléchis qu'il vient de l'arbre et que l'arbre vient de Dieu. Ils mangent son fruit et c'est tout.
La preuve, c'est qu'ils ne vont pas l'avoir rattrapé.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut chercher autre chose. C'est quoi cette autre chose? L'autre chose, c'est qu'en vérité, on a quelque chose en nous, comme on a expliqué la semaine dernière, qui est un héritage qu'on a hérité de qui tu te rappelles?
Abraham
Avinu. Seulement, on ne le sait pas forcément. Et il y a des gens qui peuvent naître et mourir sans le savoir.
C'est-à-dire que c'était caché.
D'accord,
c'était caché.
C'est-à-dire que tu peux avoir une personne qui est née dans une famille assimilée et que Dieu préserve comme ça, et ça peut être caché pendant des générations.
C'était une bracha d'Akadosh Baruch Hu de nous donner ça en legs, mais caché.
Mais caché. Pour nous laisser le livre en vie. C'est-à-dire que malheureusement, des fois, ce qui peut arriver, c'est que pendant des générations, comme ça, bon, ils sont mariés avec des juifs, etc., pendant des générations, ils sont complètement assimilés et ça ressort jamais. Et des fois, 3, 4, 5 générations après, ça ressort. D'accord.
Il y en a un qui ressort.
Des gens qui savent même pas qu'ils sont juifs.
Bien sûr. Des gens qui savent même pas qu'ils sont juifs et que tout d'un coup, tu vois, ils sont attirés. Combien de fois on a eu des histoires comme ça, vous savez, combien de fois on a eu des histoires comme ça dans les allumages publics? Des gens qui viennent et qui te disent.
En Allemagne, il y avait un couple de néo-nazis. Un garçon et une fille, au moment où ils ont dû se marier, je sais pas quoi, ils ont perdu qu'ils étaient juifs. Des néo-nazis.
Mais moi, je vous dis, dans les allumages publics, on a vu. Ouais. Combien de fois ça m'est arrivé? Des gens qui viennent dans les allumages publics. Qu'on fait ici, la place d'Italie ou ici. Et qui vient et te dit. Oui, bonjour, dis-moi, moi je suis pas vraiment juif, je suis un juif à moitié. Mais bon, quelle moitié? Sa mère est juive. Mais c'est classique. Mais le bonhomme, il a vu la lumière, il est venu. Il était attiré, comme un aimant. Est-ce que ça s'explique ça? Mais ni Kippour, ni rien, le bonhomme. Rien, zéro. Et ça, on envoie des classiques, ça. Parce que la Neshama d'un juif, il l'a ça en lui. Il n'y a pas besoin de créer quelque chose de nouveau. Il suffit de dévoiler quelque chose qu'on a en nous. Ve'ainyan. Alors, on va reprendre Ve'ainyan. Ve'ainyan, le concept est le suivant. Qui a avot en hen a merkava. Les patriarches sont merkava. C'est quoi merkava? Merkava, c'est le char. C'est comme en Israël, d'accord? Un des tanks, on appelle le merkava. Le merkava 1, le merkava 2, le merkava 3, d'accord? Etc. Voilà. Bientôt le 4. Bon, le merkava. C'est quoi merkava? Merkava, c'est un char. On a expliqué très rapidement la semaine dernière. On a dit que c'est quoi un char? Alors, je parle pas des chars sophistiqués comme à l'armée israélienne aujourd'hui. Je parle d'un char. C'est quoi la définition d'un char? Un char, c'est un outil. C'est un outil qui est dans la main d'un soldat qui va utiliser ce char-là. Maintenant, quand tu as un char et que le soldat, il prend le char et il le tourne à droite.
Il tourne à droite.
Maintenant, il n'y a pas un instant donné dans lequel le char, il se pose la question, est-ce que je vais tourner à droite ou est-ce que je vais désobéir? Ça n'existe pas. Tu tournes, il tourne. Bah, oui. Tourne à droite, tourne à gauche. Imaginez que les patriarches, ils avaient un tel niveau d'abnégation à Kadosh Baruch Hu,
c'était des chars.
Que c'était des chars. Ça veut dire, Dieu a dit, il faut faire ça. Ça sera fait. C'est pas, est-ce que je vais le faire, je vais pas le faire. C'est automatique. C'est presque un automatisme. C'est un niveau extraordinaire, ça. Parce que même un juif qui est très religieux, il y a toujours un petit laps de temps dans lequel il réfléchit, est-ce que je le fais ou je le fais pas.
À Kippour, on est un peu comme ça, pour les grandes fêtes, on est un peu comme ça.
Peut-être, peut-être. Mais pas, vraiment, fait, c'est un niveau très très fort, ça.
Non,
un niveau très
très fort. Même à Kippour.
Non, mais comme ça.
Tu descends, tu vas à la.
Je te donne un exemple. On a donné l'exemple la semaine dernière.
Pour éviter de dire de la Shonara, est-ce que tu parles?
Oui,
oui. Même à Kippour, je sais pas si on arrive à ce niveau-là. C'est un niveau très très fort, ça. Je te donne un exemple. Par exemple, ma main bouge là. D'accord? Pourquoi elle a bougé?
Le cerveau.
Parce que mon cerveau a donné un signal à la main qu'elle doit bouger.
Ouais.
Est-ce que la main peut décider de refuser cet ordre?
Non.
Évidemment qu'elle peut.
Non, elle peut pas. Si elle bouge pas, c'est qu'il y a un dysfonctionnement.
Donc il y a un dysfonctionnement. Donc,
dans
donc,
l'information.
Donc elle peut décider. Donc le manque peut décider. Le manque. Tu sais que aujourd'hui, et ça c'est expliqué, les docteurs le disent. Hein, ils disent que chaque membre a, si tu veux, son centre nerveux. Il y a un centre nerveux dans chaque membre. Il peut refuser.
Mais il y a une distribution.
Mais certes, tu as raison. Qu'il y a un grand patron. Et que normalement, quand ça se passe bien, tout se passe bien. Ça veut dire que, mais c'est calculé d'ailleurs, tu sais qu'il y a une fraction de seconde, le temps que l'information passe du cerveau à la main, on envoie le signal au centre nerveux, décide d'exécuter, il exécute. Et en général, il exécute. C'est comme ça que ça se passe.
C'est à l'express.
Mais il y a quand même une fraction de seconde.
Ouais.
C'est pas automatique. C'est pas comme le volant d'une voiture. Que j'ai tourné, il a tourné. Il n'y a pas une fraction de seconde. Il n'y a pas que j'ai tourné le volant, il a décidé est-ce que je tourne ou je ne tourne pas. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, comme tout est informatisé avec l'électronique, aujourd'hui, maintenant, de plus en plus, quand tu tournes le volant, tu ne tournes rien de mécanique. Tu tournes un objet, ça envoie un signal électronique, il dit tourne la roue. Bon.
Les avions, certains avions de guerre, on peut les piloter par la pensée.
Eh oui, mais moi, ce que je veux dire maintenant, c'est que le char qu'on parle ici, c'est un char qui est mécanique. Ça veut dire que il n'y a pas d'intermédiaire entre l'action que je fais et le résultat. Donc tout ce qu'on a aujourd'hui est toujours un intermédiaire. Je vous donne un exemple. Par exemple ici, je tiens un iPhone dans ma main. D'accord, cet iPhone-là. Moi, je vais cliquer sur un bouton. Je vais appuyer sur le bouton. Pour moi, j'ai appuyé sur un bouton. Mais c'est jamais comme ça. J'ai pas appuyé sur un bouton. J'ai appuyé sur un écran. Derrière cet écran-là, il y a un intermédiaire qui va analyser, mon geste. Il a dit puisqu'il a appuyé à tel endroit de l'écran, donc ça veut dire telle coordonnée de l'écran. Ça veut dire que il doit comprendre qu'il a cliqué sur oui, il a cliqué sur non. Bon, ça veut dire qu'il y a toujours une interface. Mais quand c'est un char, il n'y a pas d'interface. C'est, tu as pris le volant, tu l'as tourné à droite, ça tourne à droite. Eh ben, imaginez que Abraham Avinu, c'est comme ça par rapport à Kadosh Baruch Hu. Les patriarches, en général, c'est comme ça. Il n'y a pas d'interface. Que Dieu, il a cliqué sur lui, alors nous, on doit faire lui. Non, il n'y a pas d'interface. Dieu a dit, il faut le faire, et ben, ça tourne automatiquement. Donc, ils avaient un tel niveau d'abnégation à Kadosh Baruch Hu, que à Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, vous, le mérite qu'on va vous donner, c'est que tous vos enfants, pour toutes les générations, pour tout ce qui correspondra, toujours, ils auront ce niveau d'abnégation à Dieu, à savoir, ils auront cet amour caché envers Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que, si tu vas me dire que les patriarches servaient à Kadosh Baruch Hu avec leur raison, avec leur logique, dans ce cas-là, ce qui est basé sur la logique a forcément des limites. Par exemple, est-ce que mes enfants vont forcément me ressembler? Non, j'ai aucune garantie. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une logique comment je travaille. Ma femme a une autre logique comment elle travaille. D'accord? Donc, mon enfant, il peut suivre moi, il peut suivre ma femme, il peut suivre une autre approche.
Un frère, un grand frère,
une autre personne. J'en sais rien. Parce que ce qui est basé sur la logique, forcément, c'est limité. C'est bridé, c'est limité. La force qu'il y avait chez Abraham Avinu et chez les patriarches en général, c'est que leur démarche de relation avec Dieu n'était pas basée sur la logique. Donc, puisqu'elle n'est pas basée sur la logique, c'est une démarche qui peut correspondre à chaque personne du peuple Israël. Personne dans le peuple juif peut venir et dire, je ne sens pas que Avraham me parle. Je ne sens pas que Yitzhak me parle. Je ne sens pas que Jacob me parle. Parce qu'on lui dit, c'est pas basé sur la logique. C'est basé sur le fait que tu as un père et que c'est comme ça. Est-ce qu'une personne peut venir aujourd'hui et décider, j'ai décidé que mon père n'est plus mon père?
Personne.
Il peut le faire? Je supporte pas mon père, Dieu préserve. J'ai décidé qu'il n'est plus mon père.
Oui, il peut le faire.
Non?
Non, je veux dire,
tu peux le dire.
Il peut le dire. Mais il perd son temps.
Il peut décider que c'est pas son père. Il dit, monsieur, tu perds ton temps. Tu peux décider de plus te comporter envers lui comme si c'était ton père. Mais il peut pas dire, c'est pas mon père. C'est ton père, c'est fini. C'est la même chose. Un juif, comme Abraham Avinu, Yitzhak et Yaakov, ils avaient une telle abnégation à Dieu. Dieu leur a dit, je vous donne un srout, je vous donne un mérite. Que tous vos enfants, peu importe le niveau qu'ils soient, ils auront ce niveau-là, ils auront cette chance, ils auront cette chance-là, qu'ils auront une shaykhout. Ça veut dire qu'ils seront liés au judaïsme. Qu'ils le veuillent ou qu'ils le veuillent pas. Même si un juif il va dire je vais me convertir au christianisme, je vais me convertir à l'islam, Dieu préserve, etc. Tras Vechalila. Et il dit ça y est, je ne veux plus être juif. Tu ne peux pas. Tu peux dire c'est plus mon père, c'est fini. Tu ne peux pas. Tu peux dire je fais comme si, bon, vas-y, fais comme un chrétien si tu veux. Tu peux faire comme un chrétien. Donc tu ne peux pas ne pas être juif. Parce que c'est ton père, Dieu. Tu ne peux pas dire c'est plus mon père, c'est pas possible. C'est ton père. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est inné en nous, qu'on ne peut pas enlever et que c'est impossible d'enlever, ça ne sert à rien, on perd son temps. Ce qu'il dit ici.
Mais même s'il est chrétien, c'est facile, son père est aussi Dieu.
Mais c'est facile pour eux.
S'il est musulman, son père est aussi Dieu. Puisqu'on dit c'est les trucs monothéistes.
Monsieur Benita, dans un film, il y a les acteurs principaux et les acteurs secondaires. Il y a le décor. Et nous, on est les acteurs principaux.
On s'occupe des figurants.
D'accord. Vous voulez être un figurant, vous voulez être le décor. Vous pouvez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez être. Vous savez, des fois, il y a un acteur principal qui refuse son poste et qui va faire le figurant. Vas-y, reviens ici, toi ton poste est acteur principal. Un figurant, s'il fait une bêtise dans le film, on remarque pas trop, c'est pas grave. On zappe, on coupe.
Ouais.
D'accord. Mais un acteur principal, quand il fait une bêtise, ça se remarque.
Et pourtant, ces trois-là, on les appelle les religions monothéistes.
Il y a les acteurs principaux et les acteurs secondaires. Après, c'est à vous de voir. C'est un autre débat. Alors, je reprends. J'étais en train de dire que Dieu nous a donné un srout extraordinaire. Que chaque juif, il a ça inné en lui, j'ai envie de dire presque dans son ADN. C'est même, on va expliquer dans la suite de ce chapitre que c'est même plus fort que son ADN. C'est même plus fort que l'instinct de survie. Pourquoi ? Aujourd'hui, quand on demande aux scientifiques, on leur demande qu'est-ce qu'il y a de plus fort chez un homme ? Qu'est-ce qu'ils vous répondent ? C'est l'instinct de survie. Il n'y a rien de plus fort que l'instinct de survie. C'est ce que tout le monde vous répond. On a vu qu'il y a des gens que dans des situations d'instinct de survie, ils ont fait des choses extraordinaires que eux-mêmes n'étaient pas capables de savoir qu'ils avaient. Très bien. Pourtant, on a vu qu'il y a un instinct qui est plus fort que l'instinct de survie chez les juifs. C'est l'instinct du déité. Vous savez où on a vu ça ? On a vu des gens qu'on a pris, et ça on l'a vu dans l'histoire, c'était documenté chez les juifs et chez les goyims. On les a pris, on leur a dit « convertis-toi ou on va te brûler ». On le prend, on le ligote, on le brûle, d'accord ? Et ça prend du temps, ça veut dire qu'à chaque instant il peut dire « stop, arrêtez ». Je veux dire plus que ça, d'accord ? Il y a des situations où on peut même quitter ça. Et c'est très dur, mais qu'est-ce qu'on a vu dans l'histoire ? Des gens qui ont fait « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad » et qui sont restés. Si l'instinct de survie était ce qu'il y a de plus fort que tout, normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû faire le bonhomme ? Il aurait dû instinctivement s'enfuir. Dire stop, arrêtez. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Ça veut dire que chez un homme, il y a un instinct qui est plus fort que l'instinct de survie. Et ça, chaque juif l'a en lui. Mais ça, on va développer longuement dans ce chapitre. Comme on a vu qu'il y a des gens qui étaient très très loin de la Torah, pas religieux, rien du tout. Et pourtant, dès qu'on est venu, on leur a dit, dans ce cas-là, convertissez-vous. Non. Et ils étaient prêts à donner leur vie pour ça. Ils disent, mais je ne comprends pas pourquoi. Tu manges du cochon et tu veux donner ta vie pour Dieu, qu'est-ce que ça change ? Manishtana, ouais. c'est quoi la différence ? Et là, on va expliquer aujourd'hui.
Je comprends pas. Je croyais que dans le judaïsme, le plus important, même avant la Torah,
oui.
c'était la vie.
Évidemment.
Mais, alors, comment ça se fait que quand il y a quelqu'un qui vient, qui menace de la vie, quelqu'un, il peut dire, oh, tu vois.
Parce que, ça on va expliquer dans la suite, c'est pourquoi trois avérotes capitales, pourquoi avoir choisi ces trois avérotes là? Parce que c'est trois avérotes qui forment le lien avec Dieu. Et quand tu les enlèves, tu enlèves le lien avec Dieu. Mais ça on va devoir expliquer, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette
signification. En fait, un homme, toi avec Akadosh Baruch Hu, je comprends que chaque mot que tu fais, chaque pas que tu fais, chaque pensée que tu as, ça a une conséquence.
Oui.
Mais une pensée, avec toi et un homme, ta pensée à toi, ce que tu penses et ce que tu dis, ça peut être complètement étranger. C'est-à-dire que...
Pour l'idolâtrie, tu veux dire ?
Non, pas pour l'idolâtrie. Ça veut dire que... Convertis-toi, d'accord, ok. Ou je te tue, d'accord, ok. Vas-y, je vais me convertir.
Donc comme les maranes.
Voilà.
Pas exactement comme les maranes, parce qu'en fait, les maranes, ils ont choisi de vivre cette vie-là. Mais tu peux choisir de dire...
Ils ont choisi, on leur a...
Ils ont choisi.
Ils ont subi.
Non.
Mais ils sont restés juifs, attention.
Attends, ils ont choisi de vivre cette vie-là. Quand tu peux ne pas choisir de vivre ça là en disant
faire,
sur l'instant je sauve ma vie, je lui dis ce qu'il a envie d'entendre et je me sauve là où je peux me sauver de façon à être qui je suis.
Des trucs de juifs,
en quoi je fais une avéra si je dis ça? C'est ça que j'arrive pas
à comprendre. Parce qu'un juif n'a pas envie de se séparer de Dieu, ne serait-ce qu'un seul instant.
Mais là, je me sépare. En fait, en réalité, si tu veux, c'est comme une retraite, une fausse retraite. Tu te retires pour mieux réattaquer.
D'accord. Bon.
C'est une autre façon.
J'ai compris. D'accord. On va développer dans la suite. C'est ce chapitre-là. C'est le chapitre 18 qui parle de ta question. C'est ma vache, ce chapitre. Qui parle de cette question-là. Qui dit pourquoi. Surtout, je pense que on va prendre la question d'un angle un peu différent. La question qu'on va se poser surtout, c'est pourquoi c'est une avéra qui nous dérange tellement ? À tel point qu'on voit qu'il y a des gens qui font rien, mais dès qu'on leur dit « convertis-toi », ils étaient prêts à donner leur vie. Et on l'a vu dans l'histoire, ça. Des gens comme ça, des cancres, d'accord, qui faisaient les 400 coups, mais dès qu'on leur a dit dans ce cas-là, il y avait plusieurs histoires comme ça. Il y a une histoire qui vient à l'esprit, par exemple, une fois, il y a comme ça un juif, qui est voleur, tueur, tout ce que tu veux, et une fois, il a volé l'église. Il a volé l'église, bon, il a volé, d'accord, il a volé, il est rentré dans l'église, il a volé, et il s'est fait attraper, malheureusement pour lui. Et dès qu'on l'a arrêté, grand jugement, etc. et tout. Évidemment, il était coupable.
Moi, je peux pas rentrer.
D'accord. Évidemment, il était coupable. Et là, à la fin, in extremis, le juge lui a dit si vous voulez, on va vous tuer. Mais si vous voulez, il y a une option. On va vous transformer en une nouvelle personne. Vous vous convertissez et vous êtes quitte.
Non, ça.
D'accord. Bonhomme, on allait le tuer. On allait le tuer. Et ben, il a dit tuez-moi, je me convertirai pas. Ils l'ont tué.
Ah ouais.
Ils l'ont tué. Il s'est laissé tuer. Ça veut dire que.
Pour aller dans le prolongement de ce que monsieur vient de dire.
Mais alors, justement, j'ai pas fini. Donc, la question qu'on va se poser, c'est comment ça se fait que ce bonhomme-là, pour voler, tuer, ça le dérangeait pas. Mais tout d'un coup, dès qu'on lui a parlé de Avodah Zara, il a fait un blocage. Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Avodah Zara? On n'a pas répondu à la question encore.
Non.
Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier?
Mais en fait, moi, je veux comprendre pourquoi c'est une avéra. Parce qu'en réalité, on dit que ça ne sert à rien de faire la Torah s'il n'y a pas la vie. Et la Torah a été donnée pour la vie et pour servir la vie. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de Torah.
Oui.
Donc moi, je conserve ma vie. Aucune importance des mots que je dis à un goy. Un goy, c'est, il veut me convertir. De toute façon, il veut mon mal. Qu'est-ce que je veux que je fasse? Je peux rien faire de ça.
C'est ce qu'on appelle sanctifier le nom de Dieu. Je montre publiquement que Dieu est plus important que ce goy qui veut me tuer.
Ça va.
C'est ça qui douche Hachem. Qui douche Hachem, ça veut dire que je sanctifie le nom de Dieu.
Oui, mais alors dans ce cas,
je montre qui est le patron de ce monde. Et que moi, j'ai un patron dans ce monde, c'est Dieu.
C'est moi, je vais montrer qui c'est le patron.
Non, moi, j'ai rien demandé, moi. Moi, j'ai une croyance, on ne laisse pas avoir cette croyance. On va développer tout de suite. Alors, dans les mots. Ve'alken, c'est pour ça. Ve'alken, c'est pour ça. Zahru lehamshir nefesh ruach uneshama. Je suis en haut de la page 237, deuxième paragraphe. Zahru lehamshir nefesh ruach uneshama levinei machareim. Puisque les patriarches étaient à un niveau du char, ça veut dire on a expliqué, ils étaient à un niveau dans lequel ils étaient complètement, il y avait une abnégation complète et totale à Kadosh Baruch Hu. Dieu leur a donné le mérite qu'ils ont pu avoir une neshama nefesh ruach uneshama levinei machareim pour leurs enfants après eux, ad olam, à jamais. Mais Esser Sfirot de Kdusha, chez Be'arba Olamod, Atsilut, Rea, Yetira, Asiya, les Chol, les Chat, Vechat, qui fait mettre Gretouf, qui met Asa. C'est ce que je viens d'expliquer à l'oral. Dieu a donné un mérite que chaque personne du Ham Israël, peu importe son niveau, il pourra toujours se sentir affilié à Avraham Avinu. Personne ne pourra dire, non, je suis moins juif qu'un autre. On ne peut pas être plus juif, d'accord, qu'un autre. Ça n'existe pas. Ça, c'est très important ce qu'il dit ici. Si la judéité était basée sur la réflexion, on aurait pu avoir une personne qui est plus juif qu'un autre. Ou moins juif qu'un autre, ou pas juif du tout. Décider d'arrêter. C'est-à-dire qu'avec le temps, on peut s'assimiler. Or, la judéité, ça ne se calcule pas de manière logique. C'est binaire. C'est-à-dire que la judéité, c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Un tzaddik n'est pas plus juif qu'un rachat. C'est très important, ça. Un tzaddik n'est pas plus juif qu'un rachat qui est assimilé depuis 15 générations. Ils sont autant juifs l'un comme l'autre. Dans leur comportement, ils ne sont pas les mêmes. Mais ils sont autant juifs les uns comme l'autre. Parce qu'être juif, c'est binaire. Soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Ça, c'est le sraut extraordinaire que Dieu a donné à Avraham Avinu. Parce que comme Avraham Avinu, il avait une abnégation complète à Dieu qui n'était pas liée à la logique, Dieu lui a dit, le mérite que je vais te donner, c'est que le lien que les juifs auront avec Dieu sera un lien de paternité. Que peu importe si le fils se comporte bien envers son père ou mal envers son père, imaginez un père qui a deux enfants. Un enfant modèle, l'autre un cancre. Est-ce que le cancre est moins un enfant de son père que l'enfant modèle? C'est les deux la même chose. Les deux, ils sont autant l'un comme l'autre enfant de leur père. Un, il se comporte comme un bon enfant, l'autre, il se comporte comme un mauvais enfant. Mais ça ne veut pas dire qu'il est plus ou moins un enfant. C'est la même chose. Ça n'existe pas une personne qui est plus juif qu'un autre. Ça n'existe pas. Tu es juif, tu restes juif, on peut pas t'enlever ça. Et il dit plus que ça. Il dit, Valkol Panim, Afilou le Kalche Bekalim, même si tu as une personne qui est Kalche Bekalim. C'est quoi Kalche Bekalim? Le léger parmi les légers. Vous savez ce qu'on appelle un léger dans la Torah?
Non.
Une personne qu'on appelle léger dans la Torah, c'est une personne qui se moque de la Torah. Maintenant, imaginez le léger parmi les légers. Ça veut dire le bonhomme moqueur de chez moqueur. Tu dis, attends, celui-là, c'est pas possible, il se moque de tout. C'est pas seulement qu'il est ignorant. Il y a des ignorants. C'est une personne, un moqueur. Il se moque. Et le moqueur parmi les moqueurs. Vous pochez Israël. Plus que ça, tu as des fois des gens qui volontairement te font des avérotes.
Je pense que c'est des rachats.
Exprès. Un vrai rachat.
Des rachats d'amour.
Mais même une personne comme ça. Nimshar bezivugam, nefesh de malchut d'Asiya. Lorsque leurs parents ont eu des relations, parce que c'est là, il faut savoir qu'au moment de la conception, au moment qu'un homme et une femme vont concevoir un enfant, c'est à cet instant-là que la neshama va être conçue. C'est pour ça que c'est très important, d'après la Kabbalah, à ce moment-là, d'avoir des bonnes kavanot, de pas penser qu'on est là que pour avoir du plaisir, de penser au contraire qu'on a des relations pour amener une neshama. Et il faut savoir que même si concrètement il n'y a pas d'enfant qui va sortir de cette relation, parce que c'est pas une période où la femme ovule, ou parce que c'est pas une période, etc., où la femme peut être ménopausée, il faut savoir que chaque fois qu'un homme a des relations avec une femme, il y a des anges qui sont générés de ça, tout le temps. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit ici que quand, en vérité, nous, quand on va se focaliser sur la naissance du bébé, que ce bébé-là, avant de naître, il y a une conception. Et que le moment de la conception, c'est le moment le plus important. Quand la conception est bonne, ça a une influence sur toute la neshama. On avait expliqué, je reviendrai dessus, on n'avait pas pu trop le développer, il y avait des jeunes hommes à cette époque-là qu'on avait développé, en fait, dans le chapitre 2, il dit comme ça. Il dit que quand on a une neshama, on sait très bien qu'il y a une chose que les parents donnent aux enfants. C'est quoi ? Nous, on va se mettre en pause comme ça. Que dit par exemple,
même s'il n'est pas circoncis,
etc. Alors, après, il y a des blocages.
Il est pas complet,
par exemple, on dit une personne qui n'est pas circoncis, il n'est pas complet. Ça veut dire que la shrina a du mal à l'intégrer. Mais il est juif. Tu peux lui enlever ça. Ça veut dire que la Gemara pose la question suivante. Elle dit, si par exemple, des fois, on doit faire le choix entre un mamzer qui est Talmid Chacham et un Kohen Gadol qui est Ama Aretz.
Le deuxième.
Qui c'est qui passe en premier?
Mamzer.
Eh bien, c'est le mamzer Talmid Chacham. Mais il est bâtard. Il est juif. Et les juifs. Ça veut dire que quand la Torah déclare qu'une personne est juive, ça veut dire qu'il est juif. Il n'y a pas plus juif, moins juif. C'est ou tu l'es pas. C'est tout. C'est clair. Et la même chose, quand une personne se convertit, par exemple, il ne faut pas dire « Ah, je me suis converti, donc je suis à moitié juif, peut-être un petit peu juif, je suis venu tard. » Il n'y a pas. Dès que la Torah a déclaré que tu es juif à 100%. On ne peut pas être juif à 99%, ça n'existe pas. On peut pas être un peu juif, à moitié juif, ça n'existe pas. On est juif à 100%. Ça, c'est un cadeau extraordinaire qu'on a. Parce que dans les autres religions, c'est pas forcément comme ça. Dans les religions qui sont basées sur la pratique, moins tu as de pratique, moins tu as la religion. Moins tu es. Ça veut dire, on peut être, d'ailleurs, ça se dit bien en français, plus catholique. D'accord. Oui, mais ça se dit, c'est pas par hasard. D'accord. Plus catholique, moins catholique. Les Avdil, l'Alpha Avdalot. Alors que chez les juifs, il n'y a pas plus juif, moins juif. Ça n'existe pas. Si t'es juif, t'es juif. D'accord. Donc, ce qu'il dit ici. Nefesh et nefesh de Malchut d'Asiya. Donc, quand on va concevoir cet enfant, si les parents qui l'ont conçu sont juifs, eh ben, il aura une neshama de Asiya. Shehi, Madriga, Tartana, Shevi, Gushat, Asiya. Alors certes, comme j'ai expliqué, on peut avoir une neshama de très bas niveau. C'est possible. Parce que vous savez, je rentre pas dans les détails de la Kabbalah, il y a plusieurs niveaux. Et on peut avoir une neshama de très 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 bas niveau. Et que c'est vrai que spirituellement, une personne comme ça peut avoir du mal à faire la mitzvot, etc. Mais il dit, peu importe. Ça changera le niveau dans lequel se trouve ta neshama. Ça change pas. Si on te dit que tu fais partie du Ham Israël, tu fais partie du Ham Israël. On donne souvent l'exemple, je ne sais pas si je l'ai donné la semaine dernière, d'un Sefer Torah. Là, imaginez un Sefer Torah dans lequel il manque le même de Amalek. Il manque le même de Amalek. Est-ce qu'il est caché le Sefer Torah?
Non. Pas
mais il est même de Amalek. Qu'est-ce qu'il y a? La Torah me demande d'effacer le souvenir d'Amalek. On a effacé le même. C'est quoi le problème? Le Sefer Torah n'est pas caché. Imaginez un juif qui est rachat de chez rachat. Ça n'existe pas. Même un juif qui est rachat de chez rachat, il fait partie de la famille. Il fait partie de la famille. C'est un juif comme nous. Et tant que ce juif n'est pas ramené à la Torah, il manque quelque chose, il manque un membre. Vous savez, le Harizal, il dit que le Ham Israël est comparé à un grand corps. Comme un corps. Et dans un corps, il y a plusieurs membres. Il y a la tête, il y a les pieds, il y a les mains, il y a le cœur, il y a plusieurs membres. Donc on peut imaginer que, imagine-toi que le juif rachat de chez rachat, c'est le doigt de pied. Doigt de pied, le bonhomme, c'est le doigt de pied. Mais c'est le doigt de pied. Le doigt de pied, le jour où il décide de te faire mal, c'est tout le corps qui a mal. Vous savez, le petit doigt de pied, là, tout petit doigt de pied, là, tout le dernier, là, le petit dernier, là. Le jour où quelqu'un t'écrase, il te mange, tout le corps, il est là. Mais attends, quel rapport? La tête, elle a mal parce que le petit doigt de pied a eu mal, mais c'est rien, le petit doigt de pied, c'est insignifiant. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de manque qui est insignifiant. C'est la même chose. Le Ham Israël est comparé à un corps. Même si tu vas considérer que ce juif-là, c'est le doigt de pied. C'est le doigt de pied. C'est l'ongle du doigt de pied. Le jour où l'ongle du doigt de pied décide de te faire mal, il t'esquinte, tout le corps a mal. La même chose, incarné, un truc comme ça, d'accord. Le jour où il décide de faire mal, c'est le corps entier qui a mal et qui saute. Pourquoi? Parce que ce qui va être expliqué ici, c'est que Akadosh Baruch Hu se trouve à l'intérieur de chaque juif, et ça ne change pas si tu es une grande neshama, une petite neshama, plus pratiquant, moins pratiquant, ça ne change pas. Tu es autant juif, exactement la même chose. Ça, c'est un message très important de la Chassidout. Savoir que ce message-là a ramené des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Quand un juif rentre à la synagogue, et qu'il te dit, ouais, je suis pas très juif, et que tu dis, non, tu es juif. Il me dit, attends, mais quoi, je suis juif? Non, je suis pas juif, je suis pas pratiquant. Et tu lui expliques ça. Tu lui expliques que non, il a ça en lui, et qu'il suffit juste qu'il décide de revenir, et que Dieu est son père, et qu'il est le fils de Dieu. Mais ça l'attrape tout de suite, parce qu'il dit, mais c'est vrai. Ça veut dire qu'il sent que c'est pas lié à la pratique. Bien sûr qu'il faut aussi la pratique. C'est comme un enfant qui va mal se comporter envers son père. On va pas dire c'est bien de se comporter mal envers son père. Mais on est en train de lui expliquer. C'est pas parce que tu t'es mal comporté, ou que tu n'as pas appris comment tu dois te comporter, que tu n'es pas un fils. Tu es un fils d'Akadosh Baruch Hu, ça bougera pas. C'est ce qu'il dit ici. Alors, dans les mots. Ikloula gam mikulan gam rochma d'asiya, shebetocha melubeshet rochma de malchut d'atzilut, shebetocha Chokma de Atzilut, Sheba Meir Orensa Vahokumamash, Tiv Hashem Vahokma, qui détruit Hashem Vahokma et Sadarat. Ça, il faut que j'explique à l'oral ce qu'il dit ici. Il dit comme ça. Mais en vérité, vous savez, c'est pour ça que j'ai donné l'exemple tout à l'heure. Tout à l'heure, on a donné l'exemple du cerveau. Lorsque, bon, imaginez, faites bouger vos deux pieds là. Faites-le bouger maintenant, tout de suite là. D'accord? Bon, il a bougé, c'est bon? D'accord. Pourquoi il a bougé?
On lui a commandé.
Pourquoi il a bougé? Parce que?
On lui a ordonné.
Parce qu'on lui a ordonné. D'accord, ça veut dire que le cerveau a ordonné au dos de pied de bouger. Très bien. Mais pourtant, concrètement, celui qui analyse les choses à l'extérieur, qu'est-ce qu'il va voir? Un dos de pied qui a bougé. Il va se dire, il n'y a aucun rapport avec le cerveau. Mais nous qui connaissons la biologie, on sait que le dos de pied qui a bougé est lié au cerveau. Pourquoi j'explique ça? Il explique, il dit, c'est la même chose. Il dit, en vérité, quand une personne te dit, moi je suis une neshama à dos de pied, moi je suis tout en bas. Et moi, tu vois, je suis insignifiant. On lui dit, sache que le petit éveil que tu vas avoir, qui va te pousser à revenir, ce petit éveil n'est pas venu de nulle part. Il est venu du cerveau. C'est-à-dire que dans le cerveau, on a pensé à toi. Dieu a pensé à toi. Il y a un tzaddik qui a pensé à toi. Il y a une personne qui est à la tête qui a pensé à toi. Même si toi, tu ne te rends pas compte, parce que le doigt de pied, quand il est en bas, c'est pas forcément qu'il est conscient que ça vient de la tête. Je sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que lui, le doigt de pied, lui, il sait que il a bougé, c'est tout. Est-ce qu'il sait que ça vient de la tête? Est-ce qu'il sait que c'est une tête? Non. Et pourtant, il fait partie du corps. Où je vais en arriver? C'est la même chose. On peut être un tout petit pion du Ham Israël. Tout petit pion, je dis, mais en quoi, moi, je rajoute quelque chose dans le peuple juif? J'ai rien rajouté. Un tout petit pion, je suis le doigt de pied, je suis rien du tout. On te dit, sache que le fait que tu es juif, et le fait que tu te rappelles que tu es juif, eh ben, sache que c'est directement lié à la chorma. C'est quoi la chorma? Comme le cerveau, ça veut dire celui qui donne les ordres d'Akadosh Baruch Hu. Et que ça vient pas par hasard. Qu'est-ce que tu crois, ce juif-là? Pendant des années, il est rachat, et tout d'un coup, un jour, il se réveille, il dit, il faut que je m'améliore. Tu crois que c'est venu comme ça? Comme ça, c'est venu, tout d'un coup, il s'est réveillé. C'est pas par hasard. Parce que dans sa tête, dans sa tête, ça veut dire dans la tête du corpus du Ham Israël, dans la tête des Neshamot, on a pensé à lui. Et ça s'est réveillé. J'ai un autre exemple. On a des gens comme ça, pendant des décennies, ils sont loin de la Torah. Et un matin, il se réveille, il dit, bon, il faut que je me reprenne. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi pendant des décennies, il s'est rien passé, et tout d'un coup, il se réveille, il dit, il faut que je me reprenne? Qu'est-ce qu'on pense, David? Mais pourquoi? D'où est venu cette étincelle? Mais pourquoi il a démarré? Qu'est-ce qu'il a fait démarrer? C'est que forcément, il y a quelqu'un qui a pensé à lui. Si le doigt de pied a bougé, c'est que le cerveau lui a ordonné de bouger, il ne bouge pas tout seul. Si maintenant, tout d'un coup, un jour, tu te réveilles, tu dis, il faut que je bouge, c'est que quelqu'un a pensé à moi. C'est qui ce quelqu'un? Ça peut être Dieu, ça peut être un tzaddik qui a pensé à moi, ça peut être un parent à moi qui est dans les cieux qui a pensé à moi, j'en sais rien. Mais ça ne vient pas tout seul. Ce qui explique ici, que tout est lié. Tout est lié et qu'un juif, il est juif, quoi qu'il arrive. Maintenant, la seule question, c'est est-ce qu'il va exprimer le fait qu'il est juif ou pas? C'est une autre question. Mais il est juif. On n'est pas plus juif, d'accord, ou moins juif selon le niveau de pratique qu'on va avoir. Je vous donne un autre exemple. Dieu, c'est écrit que Dieu a créé le monde pour deux choses. Vous savez c'est quoi les deux choses? Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa. Qu'est-ce que nous dit Rashi? Bereshit. Pourquoi la Torah a commencé par un bet et pas par un aleph? Normalement le chumash aurait dû commencer par un aleph. Je sais pas, Elohim par exemple. Elohim. On a commencé par un bet. Bereshit bara Elohim. Qu'est-ce que dit Rashi? Bereshit, il faut prendre le mot et le découper en deux. Bereshit, bet, reshit. Bet, reshit, ça veut dire le monde a été créé, bet, pour deux, reshit, deux choses qui sont appelées commencement. C'est très important ça. Parce que le commencement d'une chose, c'est la finalité de la chose. Le commencement est lié à la finalité. Vous allez comprendre où je vais en arriver. Il y a deux choses qui sont appelées commencement. Israël et la Torah. Israël, c'est nous, pas la terre d'Israël. Israël, nous, le peuple juif et la Torah. Ils sont appelés commencement, et ils sont appelés aussi finalité. Parce que comme on dit dans le Lera Dodi, « Sauf Maasé, Vema Chashava Techila ». Ce qui arrive à la fin, c'est ce que tu as pensé au début. C'est-à-dire que la finalité est liée à ce qui se passe, est liée à ce qui s'est passé au début. C'est quoi les deux premières choses qu'il y avait dans la tête de Dieu, Kaviachol, si on peut dire, dans le plan de Dieu lorsqu'il a créé le monde? Il avait deux choses. Deux choses principales. Israël et la Torah. Tout le reste, c'est accessoire. Tout ce que vous voyez autour de vous, c'est accessoire. Le monde, les étoiles, les anges, le Gan Eden, tout ce qu'il y a autour, c'est accessoire. Le monde a été créé pour une finalité. Deux finalités, en fait, qui sont Israël et la Torah. Très bien. Maintenant, le Midrash pose la question. Il dit maintenant, on ne peut pas avoir deux finalités. Entre ces deux finalités, il faut bien un qui est pour l'autre. Alors, comment ça marche? La Torah, c'est le mode d'emploi. Et Israël, d'accord, c'est celui qui doit suivre le mode d'emploi. Donc, normalement, on doit avoir un triple lien. À savoir, Israël, qui suit la Torah, pour, au travers la Torah, se lier à Dieu. Donc, ça nous fait, d'accord, enfin, j'ai pas envie de dire une trinité parce que c'est pas chez nous, mais alors, ça nous fait un lien triple, d'accord?
Un triangle,
à savoir, il faut savoir que c'est pompé de chez nous, ça. D'accord? Donc, ça nous fait un lien triple, à savoir, Dieu, Israël, la Torah. Très bien. Qu'est-ce qui se passe maintenant si un juif n'accomplit pas la Torah? Donc là, il a cassé ce lien triptyque, comme vous avez dit. Faut pas dire l'autre mot, d'accord? Voilà. Donc là, il a cassé. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est moins juif? On te dit non. Écoutez bien. On dit en vérité, si on devait choisir entre Israël et la Torah, lequel est pour qui? Ça veut dire, est-ce que à la base c'est la Torah qui a été créée et le but c'est que maintenant Israël est au service de la Torah, donc Israël doit accomplir la Torah? Ou bien d'abord c'est Israël qui a été créé dans la tête de Dieu et que pour Israël il a créé le mode d'emploi pour lequel est la Torah?
D'après l'histoire, c'est d'abord Israël.
Qu'est-ce que répond le Midrash? Le Midrash répond, il dit, Dieu a d'abord pensé à Israël.
Ah oui, c'est
bien. Et après, une fois qu'il a pensé à Israël, il a dit, maintenant on va leur donner un mode d'emploi. Et le mode d'emploi, c'est la Torah. Mais même si un juif ne suit pas le mode d'emploi, il reste autant juif. Ça veut dire que le fait même, le Bachelot, il va très très loin. Il dit, le fait même qu'un juif existe sur Terre, c'est déjà une finalité.
Mais pourquoi
on va aller au bout du raisonnement.
Pourquoi il crée Israël?
Le fait même qu'un juif, Israël, existe dans le monde, sans rentrer dans le but de Dieu. Le fait même qu'un juif existe dans le monde, c'est déjà une finalité. Si ce juif accomplit la Torah, on a une double finalité. Mais la finalité ultime, c'est Israël, c'est nous. C'est-à-dire que le fait même qu'un juif est là, être juif, c'est déjà une finalité. Donc quand tu viens voir quelqu'un qui n'est pas pratiquant, et tu lui dis, tu as déjà une finalité, tu es juif, tu as déjà tout gagné. Ben non, bien sûr, pour apprendre ce que c'est être juif, il faut pratiquer. Il n'y a pas de problème. C'est pour toi, c'est pour ton bien, c'est pas pour le bien de Dieu. C'est-à-dire qu'en vérité, les gens, ils pensent quand ils font les mitzvot, ils rendent service à Dieu. Tu vois, ils disent, j'ai fait kiffer Dieu. Tu dis, mais non, tu ne rends pas service à Dieu. Tu as ouvert le mode d'emploi. Tu as acheté une super machine, mais tu ne sais pas l'utiliser. On dit, c'est dommage, tu as une super machine, elle est chez toi, mais tu ne sais pas l'utiliser. Donc, du coup, tu essayes d'allumer, mais ça ne démarre pas. On dit, c'est dommage, on va donner un mode d'emploi qui va la faire décoller. Tu dis, je t'ai fait kiffer, j'ai ouvert le mode d'emploi. Non, tu t'es fait kiffer tout seul. Tu n'as pas fait kiffer celui qui a donné le mode d'emploi, tu t'es fait kiffer à toi. Ouais. Tu as appris comment utiliser ton propre mode d'emploi. C'est ça la Torah et les mitzvot. La Torah et les mitzvot, c'est le mode d'emploi qui me permet de communiquer avec Dieu. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que avec ou sans Torah, un juif reste un juif. Et ça, il faut savoir que sur ce que je suis en train de vous dire, les maîtres de la Hassidout ont été très critiqués. Parce qu'à l'époque où les maîtres de la Hassidout ont dit ça, il y avait d'autres maîtres qui n'étaient pas d'accord avec ça. Aujourd'hui, c'est plus accepté ça. Il y avait d'autres maîtres qui n'étaient pas d'accord, qui disaient, mais attendez, non, un juif sans la Torah n'est pas un juif. Un juif qui n'est pas pratiquant n'est pas un juif. Il arrête d'être juif, il ne nous intéresse plus. Tant qu'il n'est pas pratiquant, c'est un rachat, il est dehors du camp. Et là, est venu le Baal Shem Tov avec des preuves qu'on va expliquer, des preuves de la Gemara, etc., pour dire non, c'est une erreur. La Gemara dit clairement, même s'il a fauté, il reste juif. Vous savez qu'est-ce qu'apprend la Gemara comme exemple? Esav. Est-ce qu'on a plus grand rachat que Esav? Son titre, c'est Esav Aracha. Voilà. Quand on veut lui donner un titre, et on connaît, il y a Yaakov Atzadik, d'accord? Yitzhak Atzadik, d'accord? Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu, ils ont tous un titre, d'accord? Un adjectif. Et quand on l'appelle Esav, comment on l'appelle? Esav Aracha. Comme Aman Aracha. Ça veut dire que dès que tu veux le nommer, tu l'appelles Esav le Aracha. C'est le Aracha par excellence, notre exemple. Et pourtant, qu'est-ce que dit la Gemara? Alors, quand on parle de Esav, on va dire, mais Esav, est-ce qu'il est juif, Esav? Ben, la Gemara dit, Esav est juif. Et ça, c'est un juif, renégat, mais c'est un juif. Il est Israël.
Alors, donc c'est la même chose aussi.
Il n'est pas Israël, il est juif.
Il est Israël. Israël, il est juif, c'est tout. Il est juif. Ça s'arrête là.
l'acrobate aussi, c'est pareil.
Évidemment, c'est un juif. Mais il n'y a qu'un juif pour faire du mal comme ça. La... vous savez, c'est quoi les initiales, juste pour terminer avec ça, c'est quoi les initiales d'Israël ? Israël, c'est les... il y a Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Israël, c'est les initiales de Yesh, Shishim, Ribo, Otiyot, la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Pour dire que Israël, c'est comme les 600 000. C'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, s'il manque une lettre, le Sefer Torah, il n'est pas cachère. C'est ça, Israël. Donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre ça. Qu'on ne peut pas être plus juif, moins juif. Ça n'existe pas, ça. Il faut enlever ça de notre tête. Et c'est une réalité, c'est comme ça.
Pourtant, le maudit...
Qui est...
D'abord, on maudit jamais un juif.
On maudit personne.
On prend des distances, on le met en quarantaine, d'accord ? C'est les moyens d'intimidation, tout ça. Mais un juif...
Gâchette de détails.
Un juif n'est jamais... Ça n'existe pas qu'un juif arrête d'être juif. Même quand on dit des fois qu'un juif est retranché du peuple juif, ça veut dire que ce Neshama doit repartir à la case départ, il doit repartir chez Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il a arrêté d'être juif. On ne peut pas arrêter d'être juif. C'est impossible. Il peut se convertir à 10 religions, il n'arrête pas d'être juif. Mais une fois, une personne qui m'a dit, je me suis converti au christianisme, je veux redevenir juif. Je dis, mais vous êtes déjà juif. Vous n'avez jamais quitté. Et vous n'avez jamais devenu chrétien, d'ailleurs. Vous pouvez vous comporter comme un chrétien, il n'y a pas de problème.
Mais Mandy,
attends, il y avait une question, Michael.
Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il s'embête à créer Israël? Pourquoi?
Le kiff.
Non, mais à part le kiff.
Chapitre 36.
Ah d'accord, ok, ça va. Si c'est marqué chapitre 36, c'est cool.
Tout est écrit dedans.
On va devoir développer ça.
Ça, je suis en 36.
Parce que c'est ça la question. La question, c'est est-ce qu'un juif.
Ça, chapitre 36. Tu crois que je vais attendre?
La question, c'est est-ce que. Tu peux lire, t'as le livre. La question, c'est est-ce qu'un juif qui n'est pas pratiquant, est-ce qu'on va dire qu'il sert à rien?
Non, on a dit non.
Comment on peut expliquer ça?
Bon, tu as dit qu'il était né.
C'est-à-dire que pour répondre à cette question. Non, attends. Pour répondre à cette question, il faut d'abord se poser la question pourquoi Dieu a créé le monde? Pourquoi il a créé l'homme? Qu'est-ce qu'il attend du monde de l'homme? Comment c'est comme un business? Pour savoir est-ce qu'on gagne ou on perd? Il faut savoir d'abord ce qu'on comptait gagner. Et par rapport à ça, quel était le but?
C'est tout.
Additionner. Donc il faut être capable de savoir quel était le but, combien on a investi, d'accord? Et quand tu additionnes tout ça, tu vas savoir est-ce qu'on a gagné ou on a perdu.
S'il a créé l'homme, c'est qui va faire qui va accomplir les mitzvot, qui va faire ce qu'il a demandé de faire, s'il l'avait pas créé.
Il a besoin de mitzvot, Dieu?
Ah ben, et pourtant il le demande dans la tefila. Ouais,
mais attendez, est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose à Dieu si on fait une mitzvah ou pas?
Peut-être, je ne sais pas, je n'en sais rien.
Si vous savez pas qui
c'est. Ça ressemble à un jeu de société, non. C'est pour ça que je te dis ça.
Est-ce que vous pensez que Dieu, ça lui change quelque chose? D'accord. Si alors, je fais une bracha avant de boire.
Pourquoi il s'est donné autant de peine dans ce cas-là, si ça ne change rien pour lui?
C'est une bonne question, il faudra développer. Voilà. Vous pensez vraiment que Dieu sans vous n'est pas parfait?
Non,
excusez-moi, j'attaque un peu.
Non, c'est pas ça ce qu'il a dit.
Non, il a vécu, il a hésité un peu. Il a hésité un peu.
J'ai touché la fierté de Marocaine.
Sans moi.
Le monde sans moi, comment? Le monde sans moi.
Non, l'homme sans l'homme en général, c'est comme un commerçant qui n'a pas de clients. Bon, ben voilà.
Ah, parce que Dieu est un commerçant.
Non, mais il a besoin d'avoir des...
Monsieur Benita, c'est évident que Dieu n'a pas besoin de nous. Si déjà c'est nous qui avons besoin de lui.
Mais
bonne question. Dans ce cas-là, pourquoi il nous a créé? Quel est son but?
Quel
est son but? C'est une autre question. Si vous voulez voir la suite, vous pouvez voir chapitre 36, mais il faut comprendre.
Il y a
des midrashim, mais avant d'arriver au chapitre 36, il faut aller progressivement. Il faut d'abord comprendre. On ne peut pas aller comme ça.
Exactement, il a raison. Non, mis à part ça, pourquoi il a besoin de nous? Mais pourquoi il n'a pas besoin de nous, mais pourquoi il nous a créés? Pourquoi il en a créé 600 000?
Évidemment.
Et pas un, et pas 601.
Exactement. Et pas un de plus. Pas un de plus, pas un de moins. Exactement. C'est que forcément, chacun a une mission. C'est sûr.
C'est quoi l'histoire?
Très bien.
C'est quoi
le but du jeu? J'arrive.
Non, c'est quoi le Monopoly?
Il y a plus que 600 000, puisqu'il y a ces 600 000 seulement qui sont sortis. Les restes.
Oui,
mais il te dit ça subdivise.
Il y a 600 000 âmes. Il y a 600 000 âmes avec des subdivisions. Ça, on va développer dans la suite.
Mais Mandy, moi toujours, j'ai toujours entendu en différents cours que avant de créer le monde, il y avait déjà la Torah qui existait déjà. Et une fois qu'il a créé donc le monde, il fallait trouver sur Terre quelque chose qui puisse mettre en valeur et faire vivre la Torah. Et c'est pour ça qu'il a créé l'homme.
Techniquement, l'homme a été créé en dernier.
Bah oui, c'est ça. Donc c'est pour ça.
L'homme a été créé après la mouche. Donc l'homme a été créé après toute la terre. L'homme, c'est la dernière création qui a été créée. Mais attendez. La question n'est pas lequel a été créé en premier.
C'est la finalité.
La question est lequel a été conçu en premier dans la tête de Dieu. Ça veut dire, je vous donne un exemple. Quand par exemple, non, je donne un exemple. Quand par exemple, un roi il veut construire un château, il y a beaucoup de détails dans le château. Beaucoup de détails. La peinture et les chambres, etc. Il y a beaucoup de détails. Mais il y a eu un moment où il a eu une conception. C'est-à-dire qu'avant même d'imaginer les détails, de quoi ça aura l'air, il a eu une conception, il a eu un rêve. Un rêve, par exemple, c'est qu'il s'imaginait un super palais, un super trône. Et ça, c'est le point principal pourquoi il a construit son palais. Tout le reste autour, c'est du décor. Ça veut dire que pour comprendre quelle est la finalité d'une chose, il faut d'abord savoir d'où tout a démarré. Pourquoi ça a démarré? Qu'est-ce que je voulais à la base? Et ce que je voulais à la base, c'est ce que j'obtiendrai à la fin. Quand une personne va s'inscrire dans un business, pourquoi il s'est lancé dans un business? Il avait un rêve dans sa tête. Le rêve peut être qu'il voulait gagner beaucoup de sous. Le rêve peut être qu'il voulait changer le monde, j'en sais rien. Mais il y a un rêve. Et ce rêve-là, c'est le même rêve qu'il y a au début et à la fin. Tout ce qui est au milieu, c'est un moyen pour accéder à un but. Donc la question qu'on s'est posée, c'était quel était le rêve original de Dieu? Il a rêvé de qui en premier? D'Israël ou de la Torah? Réponse, il a rêvé d'abord d'Israël. Qui n'était pas encore créé, mais il a rêvé de ça. Il a imaginé ça. Et par rapport à ça, il a créé le mode d'emploi qui est la Torah. Il a créé le monde qui est le support dans lequel Israël se trouvera. Et après, on est arrivé
donc,
la star.
En termes de création, ça a été la Torah. Et en termes d'application du rêve,
oui,
c'était Israël. D'accord.
D'après.
D'où le lien.
D'où le lien. Okay.
Maintenant, dernière question. Oui. Après, je te laisse continuer.
Chapitre 39.
Non. 36. Attends. Nous, on est là avec nos petits livres, faits de chair et de sang, deux bras, deux jambes, deux têtes. Une tête, pardon. Et qui sait qui va aller chercher, taper à la porte d'Akadosh Baruch Hu, qui va lui poser une question, et en plus, il va être répondu pour lui dire. Ça, j'ai fait ça en premier. Pour mettre. Oui, je t'ai donné un livre, ça s'appelle la Torah, pour que ça serve Israël. Et, mais mon but ultime, je l'ai fait parce que, chapitre 36.
Parce que c'est écrit dans le Midrashim, clairement. Le Midrashim, c'est la Torah. Enfin, je réponds à la question. C'est une question de base. Hein. C'est que.
C'est... Qui c'est qui va aller taper à la porte d'Akadosh Baruch Hu?
Parce que c'est écrit. Surtout, qui c'est qui va recevoir? Parce que la Torah, c'est le mode d'emploi que Dieu nous a donné, par inspiration divine.
D'accord.
Et cette Torah est le mode d'emploi par lequel Dieu nous permet de comprendre. On n'invente rien du tout. On fait que interpréter des textes. Et ce que je te dis, c'est écrit explicitement dans les textes.
Ça va?
C'est clair.
Ça marche.
Dépêche-toi.
Donc, dans les mots. Kedirtiv, je suis en bas de la page 238. Kedirtiv, comme c'est écrit, Hashem bechorma yasad aretz. Dieu a fondé la terre avec la chorma, vekulam bechorma asita, et que Dieu, en vérité, dans chaque élément du monde, se trouve la chorma de Dieu. Ça veut dire quoi? Comme on a expliqué l'exemple avec le doigt de pied, que jusqu'au petit doigt de pied, qui c'est qui le gère, qui c'est qui le domine, qui c'est qui le... D'accord? C'est le cerveau. Ben, la même chose. C'est qui le cerveau du monde? C'est Dieu. D'accord? Et c'est Dieu qui domine le monde. C'est-à-dire que personne ne peut dire, moi je suis insignifiant. Il n'y a pas insignifiant. Tu fais partie du corps. Et tu fais partie du corps. Est-ce que le doigt de pied va dire, je fais moins partie du corps que le cerveau? Non, les deux font partie du corps. Le doigt de pied fait autant partie du corps que le cœur. Maintenant, il y a peut-être des organes plus vitaux que d'autres, plus importants que d'autres, qui ont une fonction plus vitale qu'une autre. Mais c'est pas parce que j'ai une fonction plus vitale que l'autre que je fais plus partie du corps que l'autre. Ça n'existe pas. Même le petit doigt de pied, même mon cheveu, il fait partie de mon corps. Le moindre petit cheveu, il fait partie du corps, exactement comme le cœur. C'est la même chose. Très important à comprendre ça. Venimtsa. Donc, je suis en haut de la page 239. Venimtsa. Qui ensov varuchu melubash beprinat chokhma shebenefesh adam yé mi sheyé mi Israël. Il précise. Il dit de là, on comprend que l'infini, c'est quoi la chokhma de Dieu? C'est l'infini. L'infini divin se trouve dans l'âme de chaque juif, peu importe qui il est. Vous imaginez ce que ça veut dire? Tu prends un rachat comme Esav, et on te dit, sache qu'en toi, tu as l'infini divin. Iyé, retenez bien ce terme, c'est un mot même en hébreu moderne, on dit comme ça. Iyé, Miché-Iyé. Ça veut dire, soit qu'il soit. Ça veut dire, peu importe qui il est. Peu importe qui il est, chaque personne de nous a en lui l'infini divin. Ça veut dire qu'on ne pourra jamais comprendre le potentiel qu'il y a chez un juif. Imaginez que tu as en toi l'infini divin.
Ça veut dire qu'on est tous des dieux?
Non. On a tous en nous une parcelle de Dieu. Or, une parcelle de l'infini, c'est l'infini. Ça veut dire que le développement d'un juif est un développement à l'infini. Il n'y a pas de limite.
Non, une parcelle de l'infini, c'est pas infini.
Notre corps est fini.
Une parcelle de l'infini, c'est infini.
Pas du tout. Parce que
l'infini... Il n'y a ni un commencement, ni une fin. Une parcelle, c'est un commencement.
Mais là, c'est justement. Donc, puisque si c'est une parcelle de l'infini, ça veut dire que c'est infini.
Non.
C'est par définition, une parcelle de l'infini doit être infini aussi.
Non.
Parce que c'est pas l'infini quantitatif. Tu comprends? C'est pas qu'on a dit, bon, tu as un nombre d'unités autant que tu veux. C'est un infini qualitatif. Mais ça, on va développer dans la suite.
D'accord.
Ça veut dire que chaque élément est infini.
Ok.
Chaque élément est en lui-même infini. Donc même une parcelle de ça, c'est infini. Donc ça veut dire que chaque juif est aussi important que le plus grand tzadikim.
Juste une remarque, Ali, si tu permets.
Tu peux reprendre l'enregistrement.
Quand tu as pris l'exemple de Esav, on sait que Esav, on lui a coupé sa tête.
Ah bon,
pas du tout.
Et non, c'est...
Oui, bien sûr, oui.
Alors, bon,
bah, oui. Bien sûr.
Continue.
D'accord. Donc, si on lui a coupé la tête, on dit dans différents traités que alors, quand il y aura le Mashiach, il va lui aussi ressusciter, mais toute la Chorma qui était du bon côté va, à ce moment-là, revivre pleinement. Il va être au même titre que son oui. frère, parce qu'on dit qu'il était aussi brillant, voire plus brillant que Yaakov, mais il avait mal tourné, c'est ce qu'on dit.
Oui, bien sûr, oui.
Donc, ce qui veut dire que là, comme on a tout dans le cerveau, puisqu'on lui coupe la tête, donc c'est le cerveau qui régit tout.
D'accord, oui.
Par rapport à ce que tu... Donc là, quand Machar va revenir, il va redevenir un tzaddik
à l'origine.
Comme il était à l'origine,
ouais.
Oui.
À 100%.
D'accord, oui, alors.
Oui ou non?
Oui, bien sûr.
Donc c'est pour ça que là, c'était pour illustrer ce que tu venais de dire.
Ah oui, c'est que Esav reste juif, et que voilà, c'est-à-dire qu'il va être ressuscité comme tout le monde, etc.
Et
il a purgé ce qu'il devait purger au Guéhinnom. C'est fini, d'accord? Mais il reste juif.
Et quand tu dis que une parcelle, une étincelle de chaque jeu, c'est infini, c'est simple à comprendre. En mathématiques, une droite, c'est quoi? C'est une somme infinie de points.
Ouais.
Bah, c'est la même chose.
Non, c'est pas la même chose.
Bah, si, c'est le même principe de base.
Non, justement.
Une parcelle, c'est un extrait.
C'est ce qu'on appelle, il y a l'infini des philosophes et l'infini des mathématiciens.
Non, mais sur le principe de base, c'est
le même. Attendez, vous pouvez chercher sur Wikipédia, vous verrez qu'il y a c'est deux infinis. Hein. Il y a l'infini des mathématiques, des mathématiciens, et l'infini des philosophes. L'infini des mathématiciens, comme vous dites, c'est l'infini quantitatif. Ça veut dire qu'il y a une ligne contrat, c'est qu'il y a un nombre infini de points. Mais chaque point en soi,
est l'infini.
Non, dans l'infini des mathématiciens, chaque point en soi est une unité. Seulement, il y a un nombre infini d'unités.
Oui,
mais chaque unité chaque unité est une unité. Ça, c'est l'infini des mathématiciens. Et l'infini des philosophes, ce qu'on appelle l'infini des philosophes, les goyim, ils appellent ça, nous, on appelle ça l'infini de la Torah, c'est que chaque unité est infinie. C'est pas que c'est un nombre infini d'unités, d'accord, qui est associé. Non. C'est que chaque parcelle est infinie.
C'est ça.
C'est l'infini, on appelle ça l'infini des philosophes.
Pourquoi? Parce qu'elle peut être subdivisée?
Non, ça veut dire que tu peux pas la subdiviser.
On peut pas.
C'est comme l'extrait, c'est comme l'essence. On peut donner un exemple avec l'ADN. C'est-à-dire que tu peux prendre la moindre parcelle du corps, il y a l'ADN. Et tu peux la subdiviser, il y aura toujours l'ADN.
D'accord.
Donc tu peux pas la subdiviser.
D'accord. Ok, je comprends.
D'accord. Ok, donc donnez-moi. Donc, Vekulam Berorma, donc je suis à la ligne qui commence. Alors, où on en était? Oui, on est 239. Iyé, Mishéyé, mais Israël, au milieu de la page. Peu importe qu'il soit dû à Israël, chaque personne du peuple juif a en lui une neshama, et cette neshama est directement connectée avec la chorma, c'est-à-dire directement connectée avec l'infini divin. Ou prinat chorma sheba, im oren soveru, amelubashba, mit pachetet bechol prinat anefesh kula, le achayota bi prinat rochet prinat regla. Je traduis ce qu'il dit, c'est très important ce qu'il dit ici. Il dit, même ce rachat que tu le vois, il fait les 400 coups, le bonhomme, avec tous les membres de son corps, il fait les 400 coups. Qu'est-ce qui donne l'énergie à son corps? C'est sa neshama. Et cette neshama, c'est quoi? C'est l'infini divin. Ah, pourtant, il va utiliser les membres de son corps, il va utiliser sa main pour cogner quelqu'un, il va utiliser sa tête pour penser à des bêtises, il va utiliser son pied pour frapper quelqu'un. Il fait des bêtises. Est-ce que tu veux dire que c'est Dieu qui fait ça? Il utilise l'énergie de l'infini divin pour faire cette bêtise-là. Voilà pourquoi un juif, quand il fait une bêtise, il peut aller beaucoup plus loin qu'un goy. Un goy, la portée de sa bêtise est limitée. Ça veut dire que forcément, il y a ce que Dieu a prévu pour lui, il ne peut pas dépasser ça. Mais le juif, quand il décide de faire du mal, il n'y a rien qui l'arrête. C'est infini. Il peut faire du mal à l'infini. Pourquoi? Parce qu'un juif a en lui une âme divine qui est directement liée à l'infini divin. Et Dieu m'a donné le libre arbitre de faire ce que je veux avec ça. Je peux faire du bien ou du mal. Un juif, quand il fait du mal, il peut aller à l'infini. Calva Romain a plus forte raison quand on fait du bien qu'on peut aller à l'infini. Pour comprendre le potentiel qu'on a en nous, ça veut dire que. On a vu d'ailleurs dans l'histoire que ceux qui ont fait le plus de mal, c'est... Regardez, jusqu'aujourd'hui encore, de quoi on souffre? Le christianisme, d'où a commencé le christianisme?
L'acrobate.
C'est un juif. Parce que l'impact, il n'y a qu'un juif qui peut faire ça. Il n'y a qu'un juif qui a la force de l'infini divin, qui peut... D'accord? Le communisme, exactement. Jusqu'aujourd'hui, vous savez combien de milliards de personnes, juste pour voir déjà à l'échelle du Ham Israël, combien de centaines de milliers de personnes, je dirais même de millions de personnes, le communisme a détourné de la Torah. D'accord? C'est énorme. C'est devenu des fervents communistes qui sont écartés de la Torah. C'est qui a commencé ça? Un juif. Il n'y a que deux juifs. Il n'y a qu'un juif qui peut faire ça.
Deux juifs.
D'accord ? Il n'y a qu'un juif qui a cette capacité de créer le mal à l'infini. Parce que l'impact du travail d'un juif est un impact qui va à l'infini. Les quoi, les musulmans ?
Ouais. Je sais pas. Ils font rien de mal, les musulmans.
Il y en a qui disent sa mère était juive, je sais pas.
Ah ouais ?
Il y en a qui disent ça.
Ouais.
Il dit quoi ? Sa mère était juive.
Sa mère était juive.
Ah, Mahomet.
À Mahomet,
non, il a été élevé ou allaité par une...
Ça, c'est la version officielle.
Oh. Ouais.
De là à dire qu'il est né là-bas.
Non, mais attends, Mahomet, sa mère, c'est une goya. Comment ça s'appelle c'est marqué, c'est.
Qui c'est
la mère d'Ishmaël, c'est une goya.
Non, d'accord, je parle pas d'Ishmaël, là.
Mais c'est pareil, c'est le descendant.
Mais non, non, doucement.
Non, c'est quoi, pas
son père peut être goy, mais sa mère.
Sa mère, c'est Agar. C'est une goya.
Non, je parle de Mahomet, leur prophète, là.
Ah, oui, mais c'est pareil, c'est la même race. C'est...
Ah, non. Le père, c'est la race, mais la mère.
La mère, non. La mère, c'est...
Ah, non, c'est pas si simple que ça.
Ah bon ?
Ouais. Ah, bon. Il y a des gens aujourd'hui qui sont...
C'est Khadija, la mère.
Je vais t'expliquer, c'est très simple. Un goy, quand il fait quelque chose... La portée de ses actes est limitée.
Allô.
Tu comprends?
Il y a un goy qui était champion du monde. Hein.
Mais ça ne change pas. Même s'il est champion du monde, la portée de son action est limitée.
Non, mais il y a un goy contemporain qui était un champion du monde.
Oui. La portée de ses actions est forcément limitée. Elle peut être énorme, mais elle est limitée. Un juif, la portée de ses actions va à l'infini. Il faut comprendre ça, que chacun de nous à son niveau, on a une portée de nos actions, une portée infinie.
Vélif, qu'est-ce que dire-t-il ? Les croisés, etc., tout ça, c'était quand même presque pas à l'infini, mais ça a porté quand même quelques années.
C'est une décision de Dieu. Mais forcément, il y a un moment où ça s'arrête. Ouais. Ça s'arrête. C'est-à-dire qu'il y a une portée qui est limitée. Alors qu'un juif, il a une portée illimitée. L'action d'un juif a une portée qui est à l'infini.
Tout à l'heure, vous avez cité le communisme, la portée est limitée, bien que ça ait été fait par...
Il n'y en a plus de communisme.
Vous croyez vraiment qu'il n'y a plus de communisme ?
Si, il y a plein. Oui, mais enfin, vous connaissez pas bien, il y a toujours.
Qu'est-ce que vous croyez, les médias d'aujourd'hui, c'est quoi si ce n'est pas communiste ?
Communiste, c'est socialiste. C'est la même chose.
C'est la même chose, c'est kiff-kiff.
C'est une racine.
Le communisme, ils ont appris aux gens, aux journalistes, etc., que ce qui compte, ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est la manière comment ça va être présenté aux médias. C'est en plein dedans, on est en plein dedans, là, aujourd'hui. Vous croyez que c'est fini le communisme ? L'URSS s'est peut-être effondré, mais le communisme, on est en plein dedans. On a aujourd'hui des gens qui étaient formés par le communisme. On est en plein dedans.
À Cuba, il n'y a pas encore des communistes ?
Mais quel Cuba ? Ici !
Le régime.
Mais ici.
Poutine, je crois qu'il était communiste.
Ici, qu'est-ce que vous croyez ?
Moi ?
Poutine, pas toi.
Ah bon, moi.
Le socialisme, c'est quoi le socialisme ?
J'étais avec Georges
Marché. C'est l'émanation du
communisme. C'est le communisme, ça vient du communisme. C'est issu du communisme, c'est évident.
J'ai marché avec Georges Marché.
D'accord. Bon, alors on continue.
Il a marché.
On a quitté l'hôtel.
Il a fait des comptes avec lui. 1 million.
Vélif Ami.
Alors, tu te rappelles ?
Ouais. C'est fameux, ils
avaient. Et mai 68, c'est qui ?
Ah bah oui. Hein ? Le rouge.
Cohen.
C'est qui ? Il a changé le monde. Comme Ben dit. Le monde a changé. C'est pas que la France qui a changé. Le monde a changé.
Comment il a parlé ?
Hein ? C'est un juif.
Comment il a parlé il y a 3-4 ans.
D'accord. Mais ça change pas. Tu sais que nos pires ennemis, c'est des juifs.
Il a un frère très religieux qui vit en Israël.
C'est un imbécile. Faut voir comment il a parlé au Parlement européen.
Il a son frère qui est rabbin, je sais pas quoi.
Mais un juif a un impact énorme.
Un imbécile.
Un juif a un impact énorme.
Il a pas compris. Il se tire une balle dans le pied.
Enfin, il a un impact énorme quand il s'agit de détruire les juifs. Mais pas quand il s'agit de détruire les chrétiens ou les musulmans, etc.
Il a un impact énorme. Un juif a un impact illimité. Seulement, il faut être conscient de l'impact qu'on a. On a un impact illimité. C'est illimité. D'accord ? On va développer dans les mots maintenant. Que dire-t-il, comme c'est écrit, je suis deux paragraphes avant la fin, Ahorma Techaye Be'alea. Le verset est Shlomo Meler, le roi Salomon, il dit comme ça. Il dit, la sagesse fait vivre celui qui a la sagesse. Vous savez, Shlomo Meler, tout est crypté. De quoi il parle? Quand il dit la sagesse, de quelle sagesse il parle? Il parle de la sagesse divine. Et qui c'est qui détient la sagesse divine? Chacun de nous, même le plus grand des rachats, détient en lui l'infini divin qui est issu de la sagesse divine. Chacun de nous. Peu importe le niveau qu'il a, peu importe le degré de pratique qu'il a, il a ça en lui. Voilà pourquoi Shlomo Meler te dit, il faut apprendre à apprécier la force, la puissance de la Neshama qu'il a. Vélif Amim, et des fois, plus que ça. Ça, c'est il dit en parenthèse, mais c'est important de préciser ça. Il dit des fois, on voit des gens...
Pourquoi entre parenthèses ?
Très très, j'ai expliqué pourquoi. Alors, des fois, pourquoi c'est entre parenthèses ? Vous allez comprendre quand on va finir. Mmh. Il dit, des fois, on a des personnes qui ont une très très grande Neshama. Mais c'est une Neshama qui tombe au fin fond de la klipa, au fin fond des forces du mal. Comme il dit ici. Donc, Vélif Amim, je vais expliquer pourquoi c'est entre parenthèses. Mamshichim poche Israël. Des fois, il y a des fauteurs d'Israël. C'est-à-dire, par exemple, imaginez un rachat qui a une relation avec une rachat. Les deux, Racha et Chiracha. Ils ont des pensées complètement tordues. Bon, malheureusement, il y a un enfant qui va naître de ça. L'enfant qui va naître peut être un enfant qui peut être très très bas. Très très très, très bas. Un enfant qui a beaucoup de mal. Et pourtant, c'est un enfant qui va être... ça peut arriver des fois que cet enfant-là va avoir une neshama extraordinaire, énorme. Que moi, je suis Katoub Sefer Gilgulim, comme c'est écrit dans le Sefer Gilgulim. Ça veut dire comme ça. C'est très puissant ce qu'il dit ici. Des fois. Alors, pourquoi il le met entre parenthèses ?
Il y a Sefer Gilgulim ?
Oui, bien sûr. Il y a Sefer Gilgulim du Arizal. D'accord. Alors, pourquoi il le met entre parenthèses ? D'abord, je vais expliquer pourquoi il met entre parenthèses. C'est entre parenthèses parce que là, on est en train de faire des niveaux dans les neshamot. De dire qu'il y a des neshamot plus hautes que d'autres. Or, on vient d'expliquer, depuis tout à l'heure, on explique le contraire. Qu'en vérité, on ne peut pas être plus juif qu'un autre. Certes. Il va expliquer que c'est vrai qu'au niveau de la judéité, on ne peut pas être plus juif qu'un autre, d'accord, pour répondre à la question. Mais ce qui peut arriver, c'est qu'on peut avoir une très très grande neshama, c'est-à-dire une neshama très très haute, qui n'est pas plus juif que l'autre, mais une neshama très très haute, qui va tomber très très bas. Et que des fois, ce qui va se passer, c'est que pendant des millénaires, cette grande neshama n'est pas descendue, et que quand elle va descendre quand il va avoir une relation entre deux grands rachats de l'histoire. Pourquoi ? Alors c'est intéressant ce qu'il dit là-bas. Il dit... que des fois, on peut avoir les forces du mal qui mettent un veto. Quand une neshama va descendre sur terre, grande neshama, ils mettent un veto. Ils disent non, on ne la laisse pas descendre. Et quand on ne la laisse pas descendre, alors dans ce cas-là, tu dis bon, on voit une autre neshama, on voit une autre, on voit une autre. Ils mettent un veto. Et des fois, quand il y a une relation entre deux personnes, deux très très grands rachats, que là, probablement, la personne qui va naître de ça, eh ben, il aura beaucoup plus de chances d'utiliser cette énergie, ce potentiel en mal qu'en bien. Là, dans ce cas-là, les forces du mal laissent passer cette neshama. Et là, Dieu a un dilemme, Kaviyachol, si on peut dire. Il dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je leur envoie, est-ce que j'envoie dans ce corps-là une neshama énorme ou pas ? Les forces du mal acceptent, parce qu'il dit, celui-là, il est pour nous. Celui-là, c'est fini. Le père Racha, la mère Racha, si on l'a gagné, celui-là, il va faire une catastrophe. Mais d'un autre côté, Dieu se dit, d'un autre côté, j'ai un potentiel d'envoyer une grande neshama. Et que peut-être cette grande neshama, lorsqu'elle va arriver en moi, peut-être qu'elle fera teshuva. Donc, c'est ce qu'il dit le Arizal dans Sefer Gilgulim. Il dit, ce qui arrive des fois, c'est que Dieu attend une occasion comme ça, dans laquelle il y a une relation qui est un peu comme ça problématique, et il envoie une neshama énorme, en espérant que peut-être, dans cette incarnation, la neshama va décoller. Peut-être oui, peut-être non, peut-être qu'il fera du mal.
En espérant. C'est-à-dire que même Hachem, il n'est pas sûr ?
Personne ne peut être sûr. Il y a le libre arbitre. Personne ne peut être sûr, même Dieu ne peut pas être sûr.
Ouais, mais il sait ce qui va se passer.
Non, il sait, mais d'accord, mais il ne peut pas décider à sa place ce qui va se passer. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il te dit que, et c'est ce qui se passe, regardez. Par exemple, on voit que les plus grands changements dans l'histoire, les plus grandes neshamot, sont issus de relations problématiques. Et le Zohar donne plusieurs exemples. Il dit, regardez, par exemple, le Mashiach, il est issu de qui ?
De Ruth.
D'accord, et Ruth ?
C'est la relation entre...
Elle a eu une relation avec qui ?
Entre...
Avec Boaz. Ouais. C'est problématique comment ça s'est passé là-bas. C'est pas clair. C'est une femme qu'on a trouvée dans le champ, qu'on l'a prise, l'a amenée à la maison, etc. C'est borderline. On peut trouver des réponses à l'Arique, mais c'est borderline. J'ai pas fini. Prenez l'exemple, Boaz lui-même, de qui il descend ? Tu montes. Il descend de Yehuda, qui a eu des relations avec
Tamar.
Avec qui ? Tamar, qui était ça ?
Sa fille.
Sa belle-fille. Alors, on va trouver des permissions.
C'était interdit.
D'accord. C'était clairement interdit.
Alors, d'accord. Dans la haftara de...
Et le commentaire pose la question. Mais je comprends pas. Il dit, comment tu peux imaginer que notre Mashiach, il descend de ça? Comment c'est possible? Troisième question. Et on finira avec ça. Comment c'est possible que Yaakov, il a dû utiliser la ruse pour prendre les brachas de son frère, de son père. Comment c'est possible ? Il y a une seule réponse à toutes ces questions-là. Une seule réponse, une seule et même réponse. Que des fois, les forces du mal font un veto qui est tellement fort qu'on est obligé de ruser. C'est quoi ruser ? Ruser, ça veut dire que jusqu'au dernier instant, tu lui fais croire que t'es avec lui. Comment tu fais ? C'est quoi une personne qui est rusée ? C'est qu'il te fait croire jusqu'au dernier instant qu'il est avec toi et au dernier instant, hop, il te récupère. C'est ce qui se passe. Yehuda avec Tamar, c'était une neshama qui était tellement puissante que personne n'a laissé descendre. Personne. Et c'est très dur ce que je vais dire, c'est très dangereux même. C'est très 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 dangereux. Yehuda avec Tamar, ce qu'ils ont fait, ils ont eu une relation qui était borderline pour rentrer dans le terrain des forces du mal. Et une fois que tu es dans leur terrain, tu peux récupérer cette force-là et la ramener où tu veux. C'est ce qu'il a fait. De cette neshama-là, il suit ma chère. Pareil pour Boaz et pareil pour des choses extraordinaires.
C'est qui le patron ?
Le patron, c'est Dieu. Alors, ça veut dire quoi ?
Si les forces du mal, elles veulent blanc, mais Claude, il veut noir.
Tu comprends, les forces du mal, il faut leur faire croire que tu joues avec eux que tu vois, tu dis, ah, Yehuda, il va fauter. Mais bravo, il va fauter. S'il va fauter, on lui envoie la plus grande neshama.
Mais si tu veux faire croire à quelqu'un, ça veut dire que tu le redoutes. Sinon, tu ne lui fais pas croire.
Évidemment qu'on le redoute.
Mais comment tu peux.
Non. Parce que les forces du mal font un veto, ils bloquent.
Mais je comprends. Il y a une chose que j'arrive. Et excuse-moi, j'ai une chose que j'arrive pas à comprendre. On a dit, il y a un patron.
Attention, juste. Ça dérange pas du tout. J'arrive au bout du raisonnement. D'accord. Juste, on arrive là. Ce qu'il veut expliquer ici, voilà pourquoi il est entre parenthèses. Il veut expliquer que des fois, ce qui arrive, c'est que des très très grandes neshamotes vont débarquer chez des très grands réchaïm, le père, la mère, les deux, Racha de chez Racha. Et pourtant, ils font un enfant qui a une neshama énorme. Pourquoi? Parce que des fois, c'est la seule option qu'on a pour que cette neshama descende sur terre. En espérant que peut-être un jour, il va revenir. Et c'est pour ça qu'on voit des fois des grandes tzadikim qui vont aller faire une mission pour aller essayer de récupérer un grand Racha. T'as envie de dire, mais qu'est-ce qu'il a perdu chez ce grand Racha? Il y a tellement de juifs qui sont là, qui sont des juifs simples, normal, etc. Et le tzadik, il va aller chercher un grand Racha. Parce que le tzaddik a été capable de voir que chez ce grand rachat, il y a une grande neshama. Et que les forces du mal ont laissé passer cette neshama descendre en espérant qu'il va faire du mal. Et Bémet, c'est des gens des fois qui font des catastrophes. Parce qu'ils ont une puissance énorme.
Elle accepte donc, un neshama de repartir comme
on
ça.
On ne lui donne pas le choix.
Parce que c'est une neshama qui est élevée.
On ne lui donne pas le choix.
C'est une neshama qui est élevée. Elle a dit, moi,
personne n'a le choix.
On m'envoie dans une mission impossible, je ne veux pas.
Même les parents. Les parents ne décident pas de la neshama. La seule chose que les parents décident, les parents décident la facilité qu'aura cette neshama. Donc tu t'imagines que si les deux parents ont eu des pensées catastrophiques, donc forcément il aura beaucoup de mal à faire des mitzvot, donc les forces du mal se disent, celui-là, c'est un bon pour nous. Donc, il aura un potentiel énorme et il n'arrivera pas à faire les mitzvot.
Elle n'est pas encore parfaite si elle a besoin de revenir quand il arrive.
Ah oui, évidemment.
Il manque encore quelque chose.
Mais tu t'imagines le mal qu'elle peut causer quand elle va descendre en bas?
Inverse de ce qu'elle est
mais
déjà.
Pile l'inverse. Parce que si ses parents ont eu des mauvaises intentions, des mauvaises kavanot, ce qui va se passer, c'est qu'on aura un potentiel énorme avec pratiquement zéro possibilité de faire du bien. Il n'arrive pas à faire du bien. C'est énorme. Et il y a des grandes sadikis qui vont être capables de venir pour récupérer tout ça. C'est ce qu'il dit ici. Mais ça ne change pas. Il le met entre parenthèses parce que ça ne change pas que même s'il y a des neshamot qui sont plus élevés que d'autres, c'est pas pour ça qu'on est plus juif ou moins juif. Et ça, c'est la conclusion du cours d'aujourd'hui. Vas-y, Mika, t'avais une question, pardon.
Non, la question, ce que j'ai pas compris, c'est comment tu dis on va ruser pour essayer de faire croire que d'abord un numéro, comment les forces du mal peuvent mettre un veto, ne serait-ce que l'ouvrir. Ça, c'est une chose que j'arrive pas à comprendre. Oui. Et une deuxième chose, comment on va ruser? Si on ruse avec quelqu'un, ça veut dire qu'il a un pouvoir de me nuire. Sinon, j'ai pas besoin de ruser.
J'ai compris. Le problème, c'est que ça, c'est ce qui s'est passé à la création du monde. Quand Dieu a créé le monde, on dit qu'il y a une grande partie de l'énergie du monde qui a été prise, entre guillemets, en captivité par les forces du mal. C'est une réalité, ça. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui.
Mais c'est qui les forces du mal au moment de la création?
Les forces du mal, c'est le mal qui est autour de nous.
Donc Dieu ne peut pas les maîtriser.
Ce mal-là, il faut savoir que le mal...
Donc, il y a deux patrons alors?
Non, il n'y a pas de patron. C'est Dieu qui a créé ce mal-là. Ce mal-là est alimenté peut être alimenté uniquement par des juifs. Il faut que tu comprennes quelque chose de très important. Que si, le Zohar dit très clairement, si tous les juifs du monde, au même instant, décidaient d'arrêter de fauter, le mal cesserait d'exister automatiquement. On n'a même pas besoin de le détruire.
Ah ouais, c'est
pour là. Il cesserait d'exister. Parce qu'il n'y a qu'un juif qui peut alimenter le mal. Regarde ce qui se passe en Israël. Bon. C'est qui nos plus grands ennemis?
Les Arabes.
Non. C'est pas les Arabes. Les plus grands ennemis, c'est les Juifs. Qui donnent de la force. Bah, aux
on n'est pas sorti de la.
Mais c'est la réalité.
C'est vrai.
C'est la réalité, ce que je vous dis. Pourquoi vous croyez que les Arabes ont tellement force dans les médias?
Ah, ils seraient très bien communiqués.
C'est les Juifs. C'est très clair.
Ils ont beaucoup plus de moyens, ils sont plus puissants, plus nombreux.
Hachem, il a créé un monde dans lequel, pour l'instant, avec ma chère, il peut le faire s'il veut. Mais concrètement, dans le système dans lequel on est, non, il ne maîtrise pas.
Lui, il ne le maîtrise pas.
Non, il ne cherche pas à le maîtriser. C'est nous qui devons le maîtriser. C'est toi et moi, chacun de nous qui maîtrise le mal.
Ça fait partie des règles du jeu.
Évidemment.
Donc c'est un risque pour lui aussi.
C'est un risque, bien sûr, c'est un risque pour Dieu. Il a laissé une grande énergie qui est dans la nature. Tu comprends? Et nous, notre rôle, c'est d'aller récupérer. Plus une personne a du potentiel, et plus elle a de fortes chances de tomber dans les forces du mal. Parce que les forces du mal font tout pour l'attraper. Ils vont lui mettre toutes les tentations autour de lui, parce qu'ils savent que c'est un gros paquet.
Et qui les maîtrise, les forces du mal? Personne.
Qui les maîtrise?
Ah, pardon, donne-moi les...
Mais c'est... Qui les maîtrise? Attends. C'est la force... Dieu a créé les forces du mal.
Donc il n'y a personne pour les maîtriser. Attendez, je prends ça.
C'est le Yitzhara, c'est le Satan, c'est l'ange de la mort, c'est eux qui maîtrisent ça, mais c'est Dieu qui les a créés.
C'est pour nous donner du mérite.
Pour nous donner du mérite, exactement.
Bien sûr.
D'accord? Alors on s'arrête là. En tout cas, on ne peut pas être plus juif que juif.